Bonjour à toutes et à tous. Vous avez reconnu le générique de l'émission des lecteurs sous l'étoile. Bonjour Sylvie.
Bonjour Emeline. J'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir à côté de moi Chantal, Alphonsine, Nathanaël et Nelly. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs œuvres, mais nous commencerons par des poèmes, parce qu'en ce moment, c'est le printemps des poètes, et notre comité de lecture avait pour thème l'insurrection, pour une grande partie. Donc nous commencerons aujourd'hui par lire quelques poèmes insurrectionnels, puis Alphonsine nous présentera « La fiancée de décembre » d'Hélène Tierchamp, Nathanaël vous présentera « Pain Éducation, liberté » de Petros Markaris. Je vous présenterai Virtuoso Ostinato de Philippe Carrez. Nathanaël, Les Noirs et les Rouges d'Alberto Garlani. Nelly, un documentaire Comment sommes-nous devenus si cons d'Alain Bertolila. Puis Chantal terminera avec une biographie de Lang Lang, Le piano absolu. Samedi matin, à 10h30, nous allons vous présenter une déambulation poétique et musicale à partir de 10h30 à la médiathèque, dans les librairies et dans le centre ancien de Manosque pour célébrer justement le printemps des poètes. Pour vous mettre un petit peu en bouche, Alphonsine, Nathanaël et moi-même allons vous lire trois poèmes insurrectionnels que nous clamerons à cette occasion. Nous allons commencer par La Marseillaise des Cotillons, un chant féministe de 1848 qui se chante sur l'air de la Marseillaise que nous n'allons pas vous chanter mais que nous allons vous dire. Tremblez, tyrans portant culotte, femmes, notre jour est venu. Point de pitié, mettons en vote tous les torts du sexe barbu.
Voilà trop longtemps que ça dure, notre patience est à bout. Debout, Vésuvienne, debout, et lavons notre vieille injure.
Liberté sur nos fronts, verse tes chauds rayons. Tremblez, tremblez, Marie jaloux, respect au cotillon.
Nous suivrons par Ne d'André Spire. André Spire est un poète qui est né en 1868 et qui est mort en 1966.
Quand je valais quelque chose, digue, digue, digue. Quand je valais quelque chose.
Ne touche pas au feu, me disait le grand-oncle. N'ouvrez pas cette armoire, me disait la servante.
N'approche pas du puits, me disait la grand-mère. Ne marche pas si vite, tu te mettras en nage.
Ne cause pas en route, ne regarde pas en l'air.
Ne regarde pas à droite, il y a la fleurie. Ne regarde pas à gauche, il y a le libraire.
Ne passe pas la rivière,
ne monte pas la colline.
N'entre pas dans le bois.
Moi, j'ai pris mon chapeau, en éclatant de rire. Mon manteau, mon bâton, en chantant. Digue, digue.
La rivière, la colline, les grands bois, digue, digue, digue. Et les beaux yeux, et digue, digue, les livres. Nous continuerons, nous finirons cette série de petits poèmes insurrectionnels par un poème intitulé « Mai 68 » du grand poète Jacques Prévert, 1900-1977.
On ferme, cri du cœur des gardiens du musée, homme usé, cri du cœur à greffer, à rafistoler. cri d'un cœur exténué.
On ferme la Cinémathèque et la Sorbonne avec.
On ferme, on verrouille l'espoir, on cloître les idées.
On ferme, ORTF bouclé, vérité séquestrée, jeunesse bâillonnée.
On ferme, et si la jeunesse ouvre la bouche, par la force des choses, par les forces de l'ordre, on la lui fait fermer.
On ferme, mais la jeunesse à terre, matraquée, piétinée, gazée et aveuglée, se relève pour forcer les grandes portes ouvertes, les portes d'un passé mensonger, périmé.
On ouvre sur la vie, la solidarité et sur la liberté de la lucidité. Alphonsine va maintenant vous présenter « La fiancée de décembre » d'Hélène Tierchamp, parue chez Pygmalion.
La fiancée de décembre. Hélène Tierchamp est née à Paris, de mère française et d'un père russe. Elle est licenciée en philosophie et obtient un diplôme des hautes études cinématographiques. Donc, elle écrit « La fiancée de décembre » et elle écrit beaucoup d'autres romans historiques, comme « Henri IV », Sarah Bernhardt ou Musidora. Ce livre-ci est inspiré d'une histoire extraordinaire. C'est la vie de Pauline Goebel. Celle-ci, française, quitte sa Lorraine natale, s'installe à Paris et devient modiste. Son patron, au bout de quelques temps, lui propose de partir à Moscou pour diriger une succursale française de mode. Là, elle va rencontrer un riche aristocrate militaire. Il s'appelle Ivan Annenkov. Elle devient sa maîtresse et une petite fille va naître de leur union. On est en 1825 exactement, le 14 décembre, une insurrection est fomentée, ça s'appellera l'insurrection décembriste. Deux groupes d'aristocrates, un du nord et un du sud, fomentent donc cette insurrection pour instaurer une démocratie à la française. Et surtout, abolir le servage. Échec de l'insurrection. Le tsar, Alexandre Ier, meurt subitement. Celui-ci était plutôt libéral. Mais il est remplacé par Nicolas Ier, qui lui est plutôt répressif et a un caractère assez ambigu. Il va réprimer justement cette conspiration. 121 hommes seront exécutés. Et les autres condamnés à un exil de 30 ans dans les mines de Sibérie. Pauline s'acharnera pour obtenir du tsar l'autorisation de rejoindre son amant. Mais il va poser une condition. Sa fille ne peut pas aller avec elle, elle doit rester à Moscou. Et elle accepte cette condition, donc elle part. Plusieurs épouses aussi obtiendront aussi le droit de rejoindre les détenus. Celles-ci vont tout faire pour améliorer les conditions. Les conditions de vie, bien sûr. Donc, elles vivent près des camps dans des isbas. Elles cultivent des légumes, et surtout pour améliorer l'état de santé de ces prisonniers et les aider à se maintenir en vie. Nombreux sont ceux qui mourront. Elles les suivent aussi également dans les changements, parce qu'ils les font changer de camp de manière intempestive, sans raison. Pauline et Ivan, eux, reviendront du camp, mais ne peuvent pas revenir s'installer à Moscou. Ils resteront à Nizhny Novgorod. L'histoire, elle, est romancée, mais les faits sont historiques et sont bien relatés, bien documentés. L'écriture, elle est simple, mais elle se lit avec plaisir. Moi, je vous le recommande. Je ne vous lirai pas d'extrait parce que je n'ai pas le livre sur moi, mais c'était « La fiancée de décembre » par Hélène Tirchamp.
Nathanaël va vous présenter maintenant « Pain, éducation, liberté » de Petros Markaris.
Petros Markaris est un écrivain grec qui est né à Istanbul d'un père arménien et d'une mère grecque. Il parle couramment le grec, le turc, le français, l'allemand et l'anglais. Il était également le scénariste de Théo Angelopoulos. Et il est aussi traducteur en grec de Goethe et est considéré comme un spécialiste de Bertolt Brecht. À l'âge de 56-57 ans, il est venu au roman policier. Et dans ce roman policier dont nous allons vous lire des extraits avec Sylvie, qui s'intitule donc « Pain, éducation, liberté », il retrace la Grèce actuelle dans son état de terrible pauvreté et où la débrouille seule, en fait, règne en maître. Donc, le commissaire que nous allons rencontrer lui-même n'est plus payé, mais il continue à mener des enquêtes, et cette enquête va les mener jusqu'au cœur de l'histoire grecque. Mais avant de vous dévoiler tout ceci, on va vous en lire un extrait au moment où on le prévient qu'on a découvert un cadavre.
En rentrant dans mon bureau, j'ai juste le temps de décrocher.
Ici le centre d'opération, monsieur le commissaire. La patrouille nous a prévenus, on a trouvé un mort au centre olympique.
Koula, appelle Stravopoulos, le médecin légiste, et dis-le tout de suite au centre olympique de Falirou. Préviens aussi Dimitriou de l'identité judiciaire.
Un meurtre?
Oui.
Qui est-ce?
On ne sait pas officiellement. Selon un appel anonyme, ce serait l'entrepreneur Hieracinos Demertis.
Circulation dans l'avenue, Singrou est sporadique. Nous arrivons à un rien de temps. La voiture de patrouille barre l'entrée du centre olympique.
On va faire une petite pause musicale, je crois.
Circulation dans l'avenue Singrou est sporadique et nous arrivons à un rien de temps. La voiture de patrouille barre l'entrée du centre olympique.
Vous le trouverez à côté du gymnase, monsieur le commissaire, me dit le conducteur. Sur un tas d'ordures, ce n'est pas beau à voir.
Pas besoin de chercher, le tas se voit de loin. Un homme est couché dessus, le visage enfoncé dans les ordures. J'envoie mes adjoints jeter un coup d'œil aux ruines des installations olympiques et je reste examiner tranquillement le corps. Je reconnais Hieracinos Demertis. Aussitôt. Non à son visage, mais aux vêtements.
Il faut que j'attende Stravopoulos pour me faire une idée.
je vois que, la mort a été causée par une blessure. La balle a traversé le ventre.
J'attends de Stravopoulos pour me faire une idée. Mais même sans lui, je vois que la mort a été causée par une blessure. La balle a traversé l'omoplate, puis le cœur avant de ressortir. La mort a dû être immédiate.
Dimitrio de l'identité judiciaire arrive le premier avec son équipe.
On cherche quelque chose de précis ?
La douille. Mais je ne pense pas que vous la trouverez. On a dû le tuer ailleurs et le transporter ici.
Je laisse faire son boulot et vais retrouver mes adjoints. Des bâtiments, il ne reste que les murs. L'intérieur est vide. Tout ce qui pouvait se revendre a été volé. Il n'y a plus que des sièges cassés, des portes brisées, des filets de buts déchirés. Les projecteurs qu'on n'a pas emportés gisent par terre en morceaux. Les débris d'une grandeur passée qui n'impressionne plus personne. La graisse entière n'est plus qu'un débris.
On a payé combien pour tout ça ?
On paye encore.
On ne paie plus ? On leur a dit « Venez tout prendre ».
Et s'ils viennent ?
Qu'ils essaient. Depuis que le Grec s'est réveillé, il ne craint rien ni personne. Viens les prendre, disait le Spartiate aux Perses. Eh bien, ça recommence.
Tu as raison.
Je suis content que vous soyez d'accord, monsieur le commissaire. Dermitsakis est content, mais il a mal compris. Viens les prendre aujourd'hui. Ce n'est plus la fière parole du combattant, mais l'État grec qui nous dit viens, et nous venons. Mais il n'y a rien à prendre. Les caisses étant vides. J'aperçois des haillons et des matelas par terre.
Des gens vivent ici.
Des immigrés clandestins.
Avec un peu de chance, nous en trouverons un qui a vu quelque chose.
Cela dépend de l'heure du crime, du jour. Il n'y a personne. Ces gens-là disparaissent à l'aube et rentrent à la nuit pour dormir. S'ils ont vu le mort, ils ont fui à toutes jambes et nous ne les reverrons jamais. Si le crime a lieu de nuit, j'ai un espoir, un tout petit.
Je trouve Stravopoulos penché sur le corps.
« Tiens, précurseur, me dit-il sans relever la tête. »«
Pourquoi ?»«
Bientôt, on va tous nous ramasser dans les ordures. »«
Je ne relève pas, habitué que je suis à ces plaisanteries douteuses. »«
Tu peux me dire l'heure du crime ?»«
Ce matin, entre 8 et 11. »«
On l'a tué ici ou ailleurs ?»«
Ici, sûrement. On lui a tiré dessus, il est tombé. Si on l'avait déplacé, le corps porterait des marques. »«
Dans ce cas, on devrait retrouver sa voiture. Il n'a sûrement pas pris les transports en commun. Et s'il n'y a pas de voiture, c'est qu'il est venu avec l'assassin. »«
Autre chose me chiffonne. »
« Dis-moi. »«
Je ne suis pas absolument sûre, mais à première vue, on l'a tué à distance. L'autopsie nous le dira. J'ai terminé pour l'instant, vous pouvez le fouiller. »
Soudain, une voix s'élève, sortie des vêtements de Demertsis, et Stravopoulos recule d'un pas épouvanté.
« Ici, Polytechnique, ici, Polytechnique, la radio des étudiants en lutte, des Grecs en lutte pour la liberté. »
Suit une légère pause, puis une autre voix ajoute.
« Pain, éducation, liberté, nous n'avons pas de pain. »
Le message s'arrête brusquement. Nous restons sans voix, à regarder le cadavre qui parle. Dimitriou est le premier à réagir. Il déboutonne la veste du mort et sort de la poche intérieure un portable. Alors ce que nos héros viennent d'entendre, pain, éducation, liberté et ici Polytechnique, la radio des étudiants en lutte, c'est donc le slogan et c'est l'histoire de la Grèce post-junte militaire qui ressort. En fait, des jeunes étudiants de Polytechnique avaient pris le pouvoir et avaient pu remplacer, en fait, la junte militaire, avaient pu la renverser. Et du coup, ils ont pris, évidemment, toutes les positions dominantes dans la société. Donc, on était en 1974-75. Mais est-ce que ce ne sont pas eux qui sont aujourd'hui responsables de la déconfiture de la Grèce actuelle? Eh bien, peu à peu, tous ces hommes qui avaient pris des postes de pouvoir vont être assassinés de la même manière, c'est-à-dire de loin, et dans la poche, chaque fois, il y a un téléphone portable, et il va se mettre en marche et dire le slogan donc de ces jeunes qui maintenant ne sont plus jeunes et qui ont en fait renié tous leurs idéaux. Mais la enquête du commissaire, c'est savoir qui les tue. Est-ce quelqu'un qui a attendu 40 ans pour se venger? Est-ce que ça ne serait pas la jeunesse actuelle en rébellion? Vous le saurez si vous lisez donc ce livre de Petros Markaris, Pain, éducation, liberté, qui est un livre très intéressant par rapport à tout ce qu'il donne à voir de la Grèce actuelle, de toute la société qui se débrouille. Donc le commissaire n'est plus payé, donc toute la famille va manger avec les enfants qui eux-mêmes avaient un travail mais qui ne sont plus payés ou très peu payés. Donc tout le monde met en commun la nourriture pour pouvoir se sustenter à leur faim. Et aussi une phase donc de l'histoire grecque ancienne, celle de 74. Un petit peu moins ancienne parce qu'on se rappelle tous des Jeux Olympiques. Et là, puis on le voit, en fait, ces installations coûtaient extrêmement cher, mais sont complètement en déshérence. Et la société actuelle. Il fait même de la prospective puisque dans son livre, il imagine que la Grèce est sur le point de sortir de l'euro et donc de retourner à la drachme. Donc si vous êtes intéressé par la Grèce, eh bien, je vous recommande ce livre, donc, de Petros Markaris, Pain, éducation, liberté. Merci.
Je vais vous présenter Virtuoso Ostinato de Philippe Carrez, paru aux éditions de l'Aube. Donc Philippe Carrez, on le connaît bien à Manosque parce qu'il est venu, il vient souvent, pratiquement tous les ans, au festival Blues et Polar. On le connaît pour ses romans policiers, on le connaît pour ses scénarios de films, c'est également un musicien. Mais là, il s'est lancé dans le roman, dans le pur roman classique. Ce n'est plus du tout un roman policier. Donc l'histoire se déroule dans l'Italie du début du XXe siècle. Alors je ne savais pas trop par quoi commencer pour vous présenter ce livre foisonnant. L'histoire commence avec Marzio Bellonore, lombard de naissance, violoniste virtuose, au moment où il va donner un concert à la Scala de Milan, au début des années 30. Mais finalement, non. L'histoire commence avec Volturno Bellonore, père de Marzio, à qui on fait croire que son champ contient du minerai rare et précieux au début des années 1910. Non. En fait, ces deux histoires se répondent. Car dans les coulisses et sur scène, le Marzio de 1930 trouve tous les prétextes, une vision, une odeur, une ambiance, pour se replonger dans l'histoire du Marzio de 1910. La déchéance de la famille Bellonore, son amour pour sa belle-mère, la douce et belle Ophélia, de 3 ans à peine son aînée, son amour pour la musique, sa haine de son père, et la chute de son patelin de naissance, la fuite loin de ses racines. Tout cela est très bien orchestré. C'est une histoire bien ficelée qui se joue, se noue et se dénoue à 20 ans d'intervalle. Volturno Bellonore est le type même du patriarche qui ne règne pas que sur sa maison, mais aussi sur le village. Sa maison se compose de ses 3 fils issus d'un premier mariage, Lucio, Marzio et Thomas, par ordre de naissance, de sa mère, de sa seconde épouse, Ophélia, dont il a eu une petite fille, Vittoria. Le village est bien entendu coupé en deux entre les pro-Bellonore et les anti-Bellonore, peu nombreux, mais au pouvoir de nuisance important. Tout cela cache évidemment des histoires beaucoup plus sombres, où la folie des hommes et des femmes se combine à la vie, aux relations amoureuses, à la passion, qu'elle soit entre des êtres humains ou entre un être humain et un art, ou encore soumise au diktat d'une ambition démesurée. Virtuoso Ostinato est un livre sur la passion et sur la folie, mais c'est aussi un livre sur l'aveuglement, l'entêtement, que cela concerne Volturno et sa chimère de mine, ou Marzio et ses passions pour Ophélia et pour la musique. L'impossibilité atavique au bonheur qui semble inhérente à tous les êtres humains, qui ne vivent pas de ce qu'ils ont, mais de ce qu'ils veulent. C'est cette logique qui les mène inévitablement à leur perte ou à une forme de perte. Celle-ci peut prendre plusieurs formes, mais elle passe irrémédiablement par le malheur et l'obstination à chercher ce malheur. Je vous conseille fortement ce livre, donc j'ai oublié de vous dire, mais ce livre, Virtuoso Ostinato, a obtenu le prix des lecteurs des médiathèques de la DLVA le 14 février 2015. Donc je vous rappelle le titre, Virtuoso Ostinato de Philippe Carrez, paru en 2014 aux éditions de l'Aube. Nathanaël nous présente maintenant « Les Noirs et les Rouges » d'Alberto Garlani.
Donc on ne va pas quitter les années 68 et post-68 avec toutes les insurrections de jeunes qui ont eu lieu. Donc Alberto Garlani nous décrit un héros, Stefano, un fils d'ouvrier d'Udine, qui, du jour au lendemain, parce qu'il massacre une poignée de rouges à l'université de droit à Rome, va devenir le chef de file dans sa petite ville d'Udine, le chef de file du parti fasciste. Sa philosophie est celle du Duce. Si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Nous allons vous lire avec Sylvie, pour vous mettre dans l'ambiance, la rencontre justement, donc lui c'est un noir, entre les noirs et les rouges, et surtout la police. Donc, nous sommes en Rome, en 68. La faculté de lettres est tenue par ce qu'est dit les rouges, donc plutôt des personnes de gauche, et la fac de droit est tenue, entre guillemets, par les noirs, plutôt droite, voire même extrême droite. L'Italie n'en avait pas fini avec son passé fasciste. Et ce que nous allons donc vous lire avec Sylvie, c'est l'instant où la police va se retrouver entre ces deux factions, les noirs et les rouges.
Il s'agissait de protester contre l'évacuation ordonnée par le président de l'université et de ne riposter qu'en cas d'agression. Mais dès que les étudiants étaient apparus devant la faculté d'architecture, le ton avait brusquement changé. Comme une soudaine averse, l'été sur la plage. Formant une longue file sur les marches de la faculté, une centaine de policiers leur faisaient face, les casques luisants et étincelants. Face à une foule de plus de 2000 personnes, ils n'étaient pas nombreux et ils le savaient. Les étudiants formaient un pré, chaque fil d'herbe était un jeune armé.
Dans un silence de tombe, quelques policiers reculaient ou battaient la matraque contre leurs pommes ouvertes. Mais ce n'était pas un geste d'intimidation, plutôt une sorte de prière afin que la trêve se prolonge. Un instant de stase blanc et parfait, d'une durée irréelle. Puis les étudiants avaient hurlé le slogan « Police fasciste !» aussitôt étouffé par
« Hors de l'université, la police assassine !»
Et pendant que les cris résonnaient, des œufs pourris, des pierres, des pièces de monnaie avaient commencé à voler. Les boucliers en plastique se levaient pour neutraliser le projectile et peut-être la matinée aurait-elle continué ainsi, comme dans un rêve, si quelqu'un, un gradé peu expérimenté, n'avait donné l'ordre de changer pour disperser les étudiants et donc de charger.
Après une brève hésitation, les policiers avaient obéi, avançant en rang serré, distribuant les coups à droite et à gauche. Au premier choc, tout ce que les rouges avaient été capables de faire, ça avait été d'encaisser tant qu'ils tenaient. Et malheureusement, ils ne tenaient pas longtemps. 30 secondes, 40 secondes. Ils s'étaient presque aussitôt disséminés, battant en retraite dans le plus grand désordre et cherchant refuge sur les marches ou dans les collines basses. Mais tandis que les rouges s'enfuyaient, Quelque chose restait immobile, quelque chose de plus dur, aussi coupant et brillant qu'un diamant, une fois nettoyé de toute saleté et resplendissant, enchâssé dans sa monture en or.
La marmaille envolée sur la place, il restait les hommes de l'Ota Nationale. Ils avaient arraché au banc des lattes de bois et s'en servaient comme bâtons. Les mouchoirs avaient recouvert les bouches pour masquer leurs visages déformés par la colère. De lourdes chaînes pendaient à leurs mains. Les policiers avaient du mal à croire à une telle résistance. Ils tapaient des pieds, s'efforçaient de serrer les rangs.
Comme la bataille tournait en faveur des étudiants, les lâches avaient une occasion de se racheter. Ayant repris courage, les rouges lançaient quelques charges, obligeant les CRS à répartir leurs maigres forces. On ne connaît pas très bien ce qui se passait. Il y avait trop de fumée, des hurlements inappropriés, une voracité folle.
On ne comprenait pas bien la dynamique des causes et des effets, des chocs et des rebonds, mais c'est à ce moment-là, dans la chaleur du feu, à la vue de la Jeep en flammes et avec les cris bestiaux de son camarade dans les oreilles, que Stefano avait éprouvé un besoin irrésistible qui enflait dans ses veines et qu'il avait été emporté par l'extase du combat. D'abord recroquevillé dans l'attente et la peur, le corps se détendait à présent avec volupté, la mort dans la poitrine, la mort dans les mains, la mort dans l'agréable scintillement des poings.
Il n'avait pas d'armes. Son corps était un projectile de rage qui se fracassait contre les boucliers des CRS. Il avait pris des coups et en avait rendu un choc à la tête, un œil qui n'y voyait plus, la sueur froide. Puis il s'était retrouvé à terre, sur un policier assommé. Un coup de poing sur le casque, une douleur atroce aux dents et le pistolet de l'agent qui glissait hors de l'étui pour devenir son bien. C'était vrai, il n'y comprenait rien. Mais il était tout aussi vrai qu'il se sentait heureux, qu'il était dans les choses, avec elle, en elle, qu'il se confondait avec elle, dans la divine confusion de l'action.
Le pistolet serré dans son poing était brûlant. Le feu de la Jeep dans son âme était brûlant. À présent, je suis un guerrier, je pourrais tuer. Et tuer, il ne va pas tarder à le faire. Bientôt poursuivi par les rouges, à l'enceinte même de leur faculté de droit, il se replie. Il est poursuivi, il se sauve, il arrive à trouver une petite échappée, il tombe de l'autre côté, s'aperçoit que la faculté de lettres n'est pas loin. Il y rentre, il se dit « c'est bon, là ils ne me chercheront pas ». Il rentre dans un amphithéâtre qu'il croit désert. Et là il tombe sur un jeune homme qu'il avait vu la veille au soir à un opéra. Et ce jeune homme avait une sœur extrêmement belle. Ce jeune homme, il le prend pas surprise, il a peur qu'il parle, il entend ses poursuivants. Il le plaque contre lui, un couteau à la main, le couteau est contre la gorge du jeune homme. Et en fait, alors qu'il le serre juste contre lui sans intention de le tuer, juste pour le faire taire, juste pour le maîtriser, juste pour ne pas être attrapé par les rouges qui évidemment lui feront lui feront la peau, comme dit Chantal avec juste raison. Eh bien, une fois qu'ils sont partis, il se relève. Il pense que le camarade qui serrait contre lui donc va se relever, mais la lame est entrée dans sa gorge. Et en fait, le sang a coulé sur ses mains et le jeune homme se retrouve mort. Donc on va suivre dans ce gros roman Le Temps toutes ces années de plomb et le circuit de ce jeune homme, Stefano, qui donc en fait est un fasciste qui, de fasciste, va perpétrer des attentats dans toute cette Italie extrêmement complexe, donc, de ces années-là, où rouge, noir s'affrontent sur fond, donc, de brigades rouges, de services secrets qui instrumentent l'autre partie. Lui-même va faire un attentat extrêmement meurtrier. Et en même temps, il est toujours amoureux de cette jeune femme dont il a tué le frère, et bien sûr, il cache ceci à celle-là. Alors, je ne vais pas vous dévoiler la fin. Est-ce que cet amour sera pour être sa rédemption? Eh bien, si vous lisez Les Noirs et les Rouges d'Alberto Garlini, vous pourrez le savoir. Voilà, c'est un très beau roman, très intéressant, et qui aborde l'autre côté, en fait, le côté des fascistes, alors qu'on est souvent habitué à voir du côté, donc, des rouges.
va vous parler de « Comment sommes-nous devenus si cons ?» Tout un programme d'Alain Bertolila, paru chez First Edition.
Ce livre ne concerne pas l'insurrection, mais le cri de colère d'Alain Bertolila, linguiste français, né en 1949 en Algérie. Il est professeur de linguistique à l'université Paris-Descartes et a écrit une vingtaine d'ouvrages sur l'illettrisme, la grammaire, de nombreux articles dans des revues scientifiques, des journaux et magazines. Il est aussi l'auteur du Dictionnaire créole d'Haïti, publié en 1984. En 1997, il a obtenu le Grand Prix de l'Académie française pour son livre « De l'illettrisme en général et de l'école en particulier ». Le titre de son livre m'a paru un peu choquant, mais il m'a été prêté par des amis très distingués, ce qui m'a amusée. L'auteur aurait pu l'intituler « Pourquoi sommes-nous devenus si crédules, si naïfs ou si malléables ?» Mais cela n'aurait pas produit le même effet que ce titre si agressif ou si coup de poing, comme me disait Chantal. Le texte de l'ouvrage n'est pas grossier du tout, comme on pourrait le croire, mais écrit dans un style élégant, digne d'un professeur de linguistique. Dans son introduction, il dit « Nous sommes devenus cons parce que nous avons renoncé à cultiver notre intelligence commune comme on cultive un champ pour nourrir les siens. Oubliez le questionnement ferme, le raisonnement rigoureux, la réfutation exigeante, toutes activités tenues aujourd'hui pour un garde et terriblement ennuyeuses, remplacées par le plaisir immédiat, l'imprécision et la lâcheté. Et, un peu plus loin dans son adresse, « Lecteur, ne t'y trompe pas. Ce livre ne pointe personne du doigt. Il dénonce un danger majeur, l'extinction progressive de notre goût de la découverte, de notre volonté de questionnement, de notre désir de comprendre et d'apprendre. Une telle perspective me terrifie, car elle marquerait la rupture avec l'aventure des hommes, engagés depuis toujours dans une quête obstinée du savoir. » Car ce que les hommes ont toujours exigé, c'est moins le droit de contempler que celui de comprendre. Ce qui nous définit, c'est la volonté de penser ensemble le monde au-delà des apparences. Son livre analyse et critique la télévision, l'Internet, les politiques, les langues régionales, l'éducation, la religion, etc. À propos d'Internet et de la mémoire, il écrit « Au même titre que la rigueur intellectuelle, la mémorisation est au cœur de notre questionnement sur les effets du web. Faites donc l'expérience. Demandez à quelques adolescents de répondre à la question suivante en cherchant sur Internet. » Comment expliquer que lorsqu'on lâche une pierre, elle tombe? Au bout d'une demi-heure, demandez à chacun de proposer une explication à partir des informations qu'il a recueillies. Chacun aura sans doute tiré sur imprimante un nombre important de pages. Mais, à l'examen, la plupart des informations imprimées se révéleront sans beaucoup de pertinence. Aucun des adolescents ne sera capable de donner l'embryon d'une explication cohérente à la question posée. Lorsque vous leur demanderez ce qu'ils ont retenu de leurs 30 minutes de quête, votre déception sera encore plus grande. Certains citeront peut-être le nom de quelques sites, l'un sur l'archéologie, l'autre sur les accidents en montagne. D'autres n'auront sans doute rien mémorisé des pages et sites qu'ils ont consultés. Pourquoi une demi-heure de recherche sur Internet n'a-t-elle laissé aucune trace sur leur intelligence? Tout simplement parce qu'ils ne voient pas la nécessité de mettre dans leur propre tête ce qui est déjà dans la machine. Voilà. Sur les discours politiques, il donne quelques exemples. Un ancien ministre de l'Environnement, en 1999, alors il dit « La construction de ce barrage fut sans doute une erreur. Qui a construit ce barrage? Quand le fut-il? Qui a commis l'erreur? Voilà autant de questions que vous n'aurez même pas l'idée de poser. » Un ancien ministre de l'économie en 2007. Les Français doivent savoir que les engagements pris seront tenus. Qui s'est engagé? À quoi? Quand seront-ils tenus? Et par qui? Autant d'interrogations déplacées. En examinant de près ces exemples, on s'aperçoit que trois procédés grammaticaux sont à l'œuvre. Chacun permet de produire une phrase complète et correcte tout en évitant soigneusement de dévoiler qui fait quoi, où et quand. En d'autres termes, nous avons là trois moyens linguistiques permettant d'éluder toute interrogation et toute velléité de vérification.
Chantal s'est penchée sur la biographie du pianiste Lang Lang dans le livre Le piano absolu qu'il a écrit avec l'aide de Jean-Claude, avec l'aide d'un auteur dont je ne me souviens plus du nom.
David Pritz,
et c'est paru chez Jean-Claude Lattès.
Ce livre m'a passionnée et en même temps sidérée. Le titre Le piano absolu a un sous-titre L'éducation d'un prodige. Il s'agit de l'autobiographie de Lang Lang, pianiste. Il l'a écrite avec un écrivain, David Ritz. Lang Lang est né en 1982, à Shenyang, dans le nord de la Chine, dans une famille de musiciens dont la carrière a été stoppée lors de la révolution culturelle en 1960. Très tôt, ses parents remarquent son goût pour la musique. Malgré leur pauvreté, leur extrême pauvreté, ils réussissent à lui offrir un piano d'occasion pour ses 2 ans. Lang Lang est aussitôt passionné par cet instrument dont il joue avec délice, faisant sur le clavier la course avec le chat et la souris de Tom et Jerry qui passe à cette époque à la télévision. Son père est ravi, l'accompagne avec le hérou qui est un instrument de musique typique de la Chine populaire. On verra au cours de la lecture combien cet accompagnement assidu sera dangereux. Affectueux d'abord, puis de plus en plus intransigeant, jusqu'à un harcèlement permanent qu'on peut assimiler à une torture. La relation des Chinois à la musique est différente de celle que nous avons en Occident. Ils ont pour habitude de s'entraîner à des performances et de se mesurer lors de compétitions, où parfois l'habileté technique l'emporte sur la beauté même de la musique. Mais ces compétitions sont très prisées, notamment du pouvoir. Lang Lang passe ses premiers concours dès l'âge de 5 ans, tout en suivant sa scolarité. Ce qui signifie lever à 5h30, une heure de piano avant d'aller à l'école, et retour de l'école, 4 heures de piano. Le père a même démissionné de ses 2 petits boulots pour s'y consacrer totalement. Et la mère n'a eu que le choix de travailler dur pour faire bouillir la marmite. Il fallait non seulement se nourrir et payer le loyer, mais payer les professeurs de musique. Dès l'âge de 9 ans, Lang Lang se trouve séparé de sa mère. Il vit totalement arbitré par son père, qui est certain absolument du génie de son fils, mais le persécute de jour en jour dans la course à être toujours le numéro 1. Ils arrivent à Pékin à l'occasion d'une compétition. Lang Lang est affectivement très isolé, sans sa maman et sans amis puisqu'il est astreint au piano dès le retour de l'école, à la minute près. Cette assiduité est aussi un piège pour lui. Il le dit lui-même qu'il est musique. Il est EST, musique. Tout résonne en lui avec des sons. Il perçoit la vie comme un film dont la musique permanente se créerait en lui. S'ajoute aux exigences de son père les difficultés de la vie quotidienne très très pauvre. Le peu d'argent qu'envoie la mère sert d'abord à rémunérer les professeurs de musique. Viennent ensuite l'achat d'une alimentation très basique, le loyer. Ils n'ont pas de quoi se chauffer. Ils dorment souvent dans un seul lit, quand ce n'est pas par terre. Leur déplacement s'effectue sur un seul vélo pour les deux. Lang Lang fut remarqué particulièrement à 12 ans lors d'un concours à Francfort, qui était le premier concours qu'il passait à l'étranger, entre guillemets. Il le gagne, bien sûr, mais à la grande déconvenue des autorités chinoises qui avaient sponsorisé deux autres candidats. Leurs frais étaient intégralement payés, alors que eux ont dû emprunter pour l'inscription au concours et pour le voyage, ainsi que une espèce d'embauche du professeur qui vit avec eux pendant tout le concours. La pauvreté est telle que le professeur dort dans le lit et Lang Lang et son père dorment par terre à côté. Je vous laisse découvrir, en lisant ce livre, les mille péripéties qu'il traverse à partir de ce moment-là en Europe puis aux États-Unis. Son père reste d'une extrême exigence. Il va même lui demander de se suicider à cause d'un échec avec un professeur. Débute alors une période très douloureuse pour Lang Lang. Il traverse plusieurs mois de haine profonde à l'égard de son père. Et pourtant, il est obligé de vivre avec lui dans un minuscule logement. Il s'en sortira avec l'aide d'un marchand de légumes du quartier, Hand, adorable et d'une grande bonté, qu'il appelle oncle numéro 2. Hand est lui-même un exilé et il a laissé au pays une femme et un enfant du même âge que Lang Lang. Des liens très affectueux s'établissent entre eux et ils font presque une famille. Aujourd'hui, Lang Lang vit aux États-Unis. Il est devenu un immense pianiste qui joue dans le monde entier. Je vais vous lire quelques extraits du livre. Je trouve qu'on se régale en le lisant, en l'écoutant. Dans mon souvenir, j'entends de la musique, tandis que ma mère me serre dans ses bras, une mélodie triste dont je ne me souviens pas aujourd'hui. Elle me faisait ses adieux, j'avais 9 ans, et je ne pouvais imaginer la vie sans elle. Elle était tout mon univers. Elle retournait à Shenyang, et je devais rester à Pékin avec mon père. Shenyang, c'était chez nous, avec tant de gens que je connaissais et que j'aimais. Pékin était froid, désolé. Un gigantesque paysage urbain d'interminables avenues. C'était une ville où je ne connaissais personne. Femme mince, aux cheveux bouclés avec de grands yeux bruns, ma mère souriait toujours quand elle me regardait. Même ses yeux souriaient. Pourtant, à cet instant, son visage était baigné de larmes. Je fis une prière pour qu'elle ne parte pas. « Ça suffit, lui intima mon père, il faut que tu y ailles maintenant. Laisse ce garçon, toute cette sentimentalité fera de lui un faible. »« Je sais que tu as raison, Lang Shuoren, répondit ma mère en sanglotant. « Mais cela va être dur pour lui, c'est un enfant sensible. Il fera ce qu'il doit faire, comme nous tous. » C'est la musique qui m'a ouvert le monde. Moi, un gamin des banlieues de la Chine industrielle. Je me produis aujourd'hui chaque semaine dans un pays différent et je n'ai pas d'autre foyer que ceux de mon cœur. La Chine, mon cher pays natal. L'Europe, la terre de mes héros en musique. et les États-Unis, la nation qui m'a transformée et m'a conduit jusqu'à l'âge adulte. La musique, mon premier langage, est un langage universel, bien que chaque pays ait son propre dialecte. L'Orient et l'Occident peuvent partager en grande partie une même technologie, un même art, les mêmes sports, la même mode, la même culture. Il n'en reste pas moins que de profondes disparités subsistent. L'amour des Chinois pour la musique classique est souvent un peu naïf. Cela me réjouit de voir qu'en Chine, les élèves de piano considèrent la musique classique comme parfaitement en accord avec notre époque. Quand un jeune me dit « Hé, Lang Lang, je sais que vous êtes sur Deutsche Grammophon. Je vois que Mozart y est aussi, sous contrat avec eux. Cela m'enchante. » J'aime l'idée qu'un jeune puisse penser que Mozart est encore en vie. Quelqu'un m'a aussi demandé si Beethoven jouait mieux du piano qu'Élise, ou si c'était l'inverse. J'ai répondu « À votre avis ?» Cela ne me dérange pas qu'un public chinois applaudisse au milieu des mouvements d'un concerto, plutôt que d'en attendre la fin. Pour moi, l'amour de la musique est plus important que l'étiquette. J'adorais écouter les histoires de ma mère. Comme elle avait été chanteuse et actrice dans son école, elle s'exprimait de façon théâtrale avec un enthousiasme pétillant et de grandes pauses dramatiques. Tandis qu'elle me racontait sa vie et celle de mon père, et comment elles s'étaient entrelacées, j'entendais de la musique dans ma tête. Aussi loin que je me souvienne, les instants les plus mémorables de ma vie ont toujours été accompagnés d'une bande sonore. Pour moi, la musique était action, au sens propre du terme. La musique, disait ma mère, a été pour moi une passion précoce, a toujours constitué dans ma vie une source de joie et d'inspiration. Son grand-père adorait chanter les chants de l'opéra de Pékin, et la maison était toujours remplie de musique. Le rêve de mon père était de devenir musicien. Il jouait du erhu, l'instrument traditionnel le plus populaire en Chine. Muni de deux cordes, cet instrument occupe une place similaire à celle du violon dans un orchestre occidental. Mon prénom, Lang, signifie « lumière et soleil » et mon nom de famille, Lang, signifie « gentleman cultivé ». Je remercie mes parents de m'avoir donné un nom aussi merveilleux. Je me dois maintenant d'être à la hauteur. En tant qu'enfant de deux musiciens dont les ambitions avaient été brisées, j'étais l'objet d'espoirs immenses, ceux-là même qui m'ont guidé et conduit vers le succès. En conclusion, Lang Lang est extrêmement attachant, convaincu par ses qualités musicales. Très humble, heureux de partager son amour de la musique, extrêmement généreux. Outre cette belle personne qu'est Lang Lang, la lecture de ce livre nous permet d'apercevoir certains aspects de la vie quotidienne en Chine, fascinants car tellement différents de nos coutumes. Par ailleurs, elle nous effraie rien que d'imaginer l'enfance terrible de ce petit garçon. C'était « Le piano absolu, l'éducation d'un prodige » de Lang Lang, écrit avec David Ritz, traduit de l'anglais. Il est paru aux éditions Lattès en 2008. J'ai eu le plaisir de l'écouter, ce livre, sur un CD qui m'a été prêté par la bibliothèque sonore de Manosque. Je sais que vous pouvez aussi le trouver à la médiathèque de Manosque.
Nous avons présenté La fiancée de décembre d'Hélène Tierchamp, paru chez Pygmalion, Pain, éducation, liberté de Petros Markaris, paru au Seuil, Virtuoso ostinato de Philippe Carrez aux éditions de l'Aube, Les Noirs et les Rouges d'Alberto Garlani chez Gallimard. Comment sommes-nous devenus si cons d'Alain Bertolilla chez First Edition. Et pour finir, Le piano absolu de Lang Lang chez Jean-Claude Lattès.
Et Sylvie,
nos prochains rendez-vous. Donc, n'oubliez pas, on vous invite samedi matin, 21 mars, à partir de 10h30, à une déambulation dans les rues de Manosque, dans le centre ancien, dans les librairies et à la médiathèque. On lira des textes révolutionnaires dans les rues de Manosque et on sera accompagné dans la médiathèque et dans les librairies par les jeunes clarinettistes de l'école de musique. Un autre rendez-vous, le 2 avril, Nathanaël va vous en parler.
Oui, alors le 2 avril, comme je m'occupe aussi du fonds ancien, j'ai eu le plaisir de retrouver de grands volumes qui font au moins, qui sont absolument énormes et qui s'appellent « Les monuments de Ninive ». Et ces livres, en fait, sont la relation, enfin relatent les premières fouilles françaises qui ont eu lieu en Mésopotamie à la moitié du 19e siècle, donc aux environs des années 1848, et qui sont donc des relevés de fouilles et des dessins, enfin tout ceci est gravé, c'est très beau, et des gravures des principales statues qui aujourd'hui sont hélas attaquées et détruites par les mouvements extrémistes de Daesh en Syrie et en Irak. Donc hélas, aujourd'hui plus qu'hier, on va pouvoir connaître ces monuments par ces livres. Donc je vous invite à les découvrir avec moi, je vous expliquerai comment ces fouilles ont été faites, par qui elles ont été faites, et même comment ces livres sont arrivés jusqu'à notre médiathèque, car ce sont des livres relativement précieux et surtout très coûteux pour l'époque. Alors comment Manosque a pu les acquérir? Eh bien, vous le découvrirez en venant le jeudi à 17h, le jeudi 2 avril à 17h, à la médiathèque de Manosque.
Voilà, notre émission est maintenant terminée, et nous vous disons au revoir et bonne lecture. Et merci Emeline.
Merci
à la technique.
À bientôt.
À bientôt.